Vous écoutez
RMC.
Mercredi 13 mai,
l'info sur RMC.
Ah, j'ai repris mes bonnes habitudes, je suis en retard. Hein. 8h30, enfin bonne ou moins bonne. 8h30, ouais. Peu importe. Céline Kallmann, vous êtes là pour les dernières informations.
Moi, je suis là. Alors, bonjour à tous. Bonne nouvelle, si vous habitez en Loire-Atlantique et dans le Finistère, certaines plages rouvrent à l'instant. Promenade, jogging, sport nautique et baignade sont autorisées. Si vous habitez Paris, en revanche, il faudra patienter pour goûter au plaisir des espaces verts, la mer de la capitale. Et pour refus du gouvernement, Anne Hidalgo, qui sera votre invitée. Jean-Jacques à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et puis n'oubliez pas votre justificatif si vous prenez les transports en commun aux heures de pointe. Vous risquez 135€ d'amende si vous ne respectez pas les règles. Bienvenue à tous sur RMC. Enlever ses chaussures, mettre les pieds dans le sable, courir, se jeter à l'eau. Voilà ce que peuvent faire depuis quelques minutes les habitants de La Baule, de Pornichet, mais aussi de trois communes du Finistère. Feu vert donné par les préfectures pour rouvrir ces plages ce matin. Il y a tout de même quelques règles à respecter, Marion Fournet.
Mettre les pieds dans l'eau, parcourir le littoral, c'est de nouveau possible à La Baule. Après plusieurs jours d'instruction, la ville a obtenu l'autorisation dérogatoire de réouverture de sa plage, pour le plus grand plaisir des riverains.
Air pur, air vivifiant, iodé, que des bonnes choses.
Une seule envie, c'est de courir et de me jeter à l'eau, comme tout le monde, je pense.
Pour le maire Yves Météraud, la demande de la réouverture du littoral venait de l'ensemble de la ville.
Elle vient des habitants, elle vient des commerçants qui ont envie de reprendre leur activité, qui ont envie de voir démarrer la saison alors qu'ils ont perdu 3 mois. Il y a une impatience économique et il y a une impatience de sortir d'une ambiance stressante également.
Dans sa boutique, Cédric vend et loue du matériel de sport nautique. Après 2 mois difficiles, il retrouve enfin le sourire.
J'espère que tout le monde sera au rendez-vous. J'ai envie de dire que les gens auront confiance aussi. On a la place, on n'est pas obligé de se coller les uns aux autres en plus. Donc je pense qu'il faut en profiter.
Attention tout de même, seule une pratique dynamique de la plage est autorisée, c'est-à-dire se promener et s'adonner à des activités nautiques. Pour faire la sieste et bronzer sur le sable, il faudra encore attendre.
Cet été, pourra-t-on les arder au soleil, sur les plages, où l'on veut, quand on veut? Question évidemment que se posent les professionnels du tourisme, impactés comme jamais depuis le début de la crise. Question que se posent également de nombreux Français qui rêvent de pouvoir se rendre plus loin que les 100 km autorisés aujourd'hui. RMC vous révèle ce matin que près d'un Français sur deux ne partira pas. Sondage YouGov pour le site Loisirs Enchères. Reportage en Ardèche, signé Florence Donjon.
Christelle est commerçante à Privas, elle n'a pas pris de vacances depuis Noël dernier et a priori ce ne sera pas non plus pour cet été.
Ça c'était ma réservation à côté de Gênes et du coup je vais devoir annuler cette réservation.
Pas question pour cette mère de famille de prendre le moindre risque sanitaire ou financier.
J'ai peur de l'épidémie, oui, et puis j'ai peur aussi de ne pas pouvoir annuler au dernier moment.
Comme elle, beaucoup de Français envisagent d'annuler leurs vacances, une mauvaise nouvelle notamment pour les professionnels du tourisme.
C'est tout propre, on attend juste les clients.
Jean-Christophe dirige un camping, les Français ne seraient que 16% à y envisager un séjour cet été. Le gérant a déjà perdu 150 000 euros sur son avant-saison, la suite s'annonce compliquée.
Faut pas croire que même si on ouvre la haute saison, elle va être, on pourra pas récupérer la clientèle française. Enfin, on va en récupérer bien sûr, mais pas autant.
Car la tendance cette année est aux économies pour plus de 30% des Français. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air espèrent connaître, quant à eux, début juin, la date de leur réouverture.
La France approche des 27 000 victimes du Covid-19. 348 personnes sont décédées ces dernières 24 heures. Un bilan qui repart à la hausse. Un peu plus de 2500 personnes sont en réanimation. Dans les transports, ce matin, vous devez justifier vos déplacements au-delà de 100 km de votre domicile. Il y a pour cela une attestation à remplir. Dans les transports en commun, là aussi, il faut se justifier. Les forces de l'ordre procèdent à de nombreux contrôles, notamment à la gare de Lyon où vous vous trouvez pour RMC, Martin Bourdin.
Les consignes sont plutôt bien respectées ce matin. Tous les voyageurs avec qui j'ai pu discuter ont avec eux cette fameuse attestation employeur. Et puis ce qui frappe aussi, c'est que tout le monde porte un masque au moment d'entrer dans la gare. En même temps, impossible d'y accéder si vous ne l'avez pas sur le nez. Une trentaine de policiers et de gendarmes, plus des agents de la sûreté ferroviaire sont là pour s'en assurer. Des forces de sécurité, pas forcément très nombreuses en termes d'effectifs donc, mais bien visibles un peu partout. Gare de Lyon, ce matin, ils sont là à chaque entrée, à chaque accès, en bas de chaque escalator par exemple, accompagnés accompagné aussi d'agents de la SNCF et de la RATP, évidemment, présents pour rappeler les consignes de sécurité aux voyageurs, pour distribuer aussi du gel hydroalcoolique. Rappel des consignes, donc plus que verbalisation ce matin encore. On est encore dans l'accompagnement et dans la pédagogie plutôt que dans la répression, me confirmait d'ailleurs tout à l'heure un policier.
Martin Bourdin avec Juliette Pietraszewski. On en parlait au début de ce journal, pendant que les plages rouvrent par endroits. Eh bien, à Paris, les parcs et jardins restent fermés. Évacuation même hier soir des marches du Sacré-Cœur. Il y avait trop de monde pour les forces de l'ordre. La maire de Paris, Anne Hidalgo, insiste à nouveau pour rouvrir les espaces verts. Refus du gouvernement qui craint une hausse des contaminations. Romain Cluzel.
Au milieu des immeubles, un carré de verdure, des allées et un peu d'eau, mais un grand portail empêche l'accès aux visiteurs. Alors pour promener leurs chiens depuis deux mois, Michel et Nathalie font comme ils peuvent.
On tourne en rond dans les rues, on essaie de prendre les rues où il y a un peu d'espace.
Ils soutiennent donc la demande d'Anne Hidalgo, il faut ouvrir les parcs de la ville.
De toute façon, les gens qui veulent se retrouver, ils se retrouveront, ça c'est clair.
On ouvre les métros, pourquoi on n'ouvrait pas les parcs? Le métro, la promiscuité est quand même beaucoup plus étroite qu'un parc, hein. C'est aberrant.
La mairie souhaite une ouverture sous conditions, avec masque et impossibilité de s'asseoir dans le parc, mais ça ne rassure pas Alicia, masque sur le visage, elle s'inquiète du risque de contamination.
Je me suis rendu compte que y a beaucoup de gens qui sont dans les rues et qui respectent pas forcément les distances et les gestes barrières. Et je serais plutôt pour attendre en fait encore quelques semaines pour pas risquer un reconfinement bêtement dans quelques semaines quoi.
Une crainte partagée par Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
J'ai du mal à penser qu'il y a une urgence à ouvrir les parcs à Paris. À partir du moment où on est dans des grands endroits où on peut se réunir à beaucoup de personnes, c'est extrêmement difficile d'avoir un contrôle. Si on ouvre les parcs, alors pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas les restaurants?
Pour l'instant, seuls les bois de Boulogne et de Vincennes sont accessibles pour les Parisiens.
Il est 8h09, Anne Hidalgo va répondre. Anne Hidalgo sera mon invitée tout à l'heure, la maire de Paris, entre 8h35 et 9h sur RMC et BFM TV.
Emmanuel Macron préside ce matin le premier Conseil des ministres depuis le déconfinement. Une longue série de projets de loi habilitant les dizaines d'ordonnances prises ces derniers jours dans l'urgence vont être adoptées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui fera en fin de conseil une communication sur l'état de l'épidémie en France. À partir d'aujourd'hui, les médecins généralistes peuvent signaler sur leur site de l'assurance maladie, tous les nouveaux cas de patients atteints du Covid-19, mesures pour cibler et prévenir d'éventuels foyers d'infection. Jean-Baptiste Bourgeon.
Désormais, chaque patient du docteur Laguille atteint du Covid-19 sera longuement ausculté puis signalé par le praticien sur le site internet de l'assurance maladie.
On va lui demander son nom, son numéro, son adresse, les coordonnées de l'entourage. Après, l'assurance maladie s'occupera de le joindre, lui, son entourage, et les cas contacts possibles.
Pour le médecin, ce signalement est une très bonne mesure.
C'est une mesure qui a déjà fait ses preuves, qui en fait ressemble à ce qui est utilisé par exemple pour la fièvre Ebola. Dès qu'un cas apparaît, on l'isole.
Le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, tient à rassurer sur le partage des données essentielles pour lutter contre le virus.
C'est un secret médical partagé. On identifie le patient, on identifie les personnes qu'il a pu côtoyer et qu'il aurait pu contaminer. C'est une enquête qui permet d'essayer de contenir le virus et de contenir l'épidémie. C'est la seule façon de le faire.
Pour plus d'efficacité, le docteur Jean-Paul Hamon aurait souhaité que les infirmières libérales soient aussi intégrées dans la procédure de signalement.
Un fumeur sur quatre a augmenté sa consommation de tabac pendant le confinement, c'est ce que révèle ce matin une enquête de Santé publique France. Loin des yeux et trop loin du cœur, les grands-parents en ont assez d'être privés de leurs petits-enfants. Au sein des familles, on est partagé entre l'envie de voir papy et mamie et le risque de les contaminer. Le reportage de Romain Poiseau en Seine-et-Marne à Chères-en-Forêt.
Plus de 3 mois maintenant que Cléophée, 11 ans, Darius, 8 ans et leur mère Valérie n'ont pas vu les grands-parents.
On a trop envie de vous voir, ça fait hyper longtemps maintenant.
C'est un petit peu long, hein. Il nous tarde.
Ouais.
Les câlins, les bisous.
Alors une fois avoir pris des nouvelles de toute la famille, Gisèle, la grand-mère, se projette très vite vers les retrouvailles.
On se dit, bon, ça serait quand même trop bête qu'on tombe malade. Et mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on espère quand même pouvoir les voir au mois de juillet.
La décision n'est pas encore prise. Darius, Cléophée et leur mère ont bien conscience qu'il est risqué de voir les grands-parents.
Parce qu'ils sont très très vieux, un peu plus fragiles.
C'est pas possible de pas les embrasser, de pas leur faire de câlins. On peut quand même prendre un risque. De prendre une décision définitive, c'est compliqué.
Respecter les gestes barrières, surtout avec ses aînés, doit être la conduite idéale à tenir, selon Anne-Claude Crémieux, infectiologue.
Moi, mon conseil, c'est de voir les personnes âgées en portant un masque et en respectant la distance.
Une personne de plus de 65 ans, même en bonne santé, risque des complications sévères en cas de contamination.
Et puis aux États-Unis, le bilan repart à la hausse, près de 1900 morts en une journée. Les habitants de Los Angeles n'en ont pas fini avec le confinement. Les mesures restrictives devraient rester en vigueur encore 3 mois jusqu'à fin juillet.
Bien, Anne Hidalgo sera mon invitée tout à l'heure. Vous venez de parler des États-Unis. Au Brésil, on s'inquiète aussi au Brésil.
Oui, le bilan s'alourdit avec quasiment 900 morts en seulement 24 heures. C'est la pire journée, un pire bilan quotidien au Brésil depuis le début de la crise. Plus de 12 000 victimes. Là-bas, le virus circulait déjà pendant le carnaval de Rio en février. C'est ce que disent les autorités. Pourtant, les salons de coiffure et de beauté restent ouverts au Brésil. Pourquoi ? Parce que le président Bolsonaro insiste. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du pays. C'est ce qu'il dit.
Oui, Paula Forteza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée des Français de l'étranger. Et justement, votre circonscription regroupe 33 pays d'Amérique latine, dont le Brésil et les Caraïbes. La situation au Brésil, oui, c'est inquiétant. Hein.
C'est inquiétant.
Que disent les Français qui sont installés là-bas? Ils sont très inquiets.
Ils sont très inquiets. Ils disent qu'il y a eu une gestion irresponsable au niveau politique. Et on voit qu'il y a une crise politique aussi qui s'installe. On a dû beaucoup travailler pour rapatrier des Français, des touristes qui étaient à la rue parce que les hôtels fermaient. Donc ça a été une lourde charge en début de crise.
Bien, Paula Forteza, vous êtes là parce que vous faites partie de ces députés. Vous êtes 66 en tout, parlementaires qui font des propositions pour l'après. Des propositions sociales, économiques, environnementales pour gérer l'après-crise. D'abord, dites-moi, est-ce que ce sont les prémices de la création d'un autre... Parce que vous étiez à La République En Marche, vous, Paula Forteza?
J'étais à La République En Marche, j'ai
aujourd'hui,
quitté.
Aujourd'hui, vous avez quitté, aujourd'hui vous êtes non inscrite?
Je suis non inscrite aujourd'hui.
Bon, vous êtes regroupée, est-ce que va naître un nouveau groupe parlementaire?
Je savais que vous allez me poser cette question.
Ben évidemment,
je savais pas que vous allez commencer par là. Il n'y a aucun lien entre le jour d'après et l'éventuelle création d'un groupe. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité.
Ce n'est pas d'actualité, là.
Il n'y a pas eu d'annonce.
Parce que j'ai vu ça dans les journaux, hein.
Il y a beaucoup de mousse avec très peu de savon. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de lancement de groupe. Donc, revenons à l'actualité. Aujourd'hui, il s'agit de cette consultation et des résultats de la consultation.
Paula Forteza, d'abord, l'actualité, c'est moi qui pose les questions, hein, ici. Bon, mais Paula Forteza, donc aujourd'hui, il n'y a pas de groupe. On est d'accord. Pas de constitution
aujourd'hui,
de nouveau groupe.
Il n'y a pas de groupe.
Aujourd'hui. Bon, nous verrons plus tard. Paula Forteza, consultation en ligne, donc intitulée « Le jour d'après », lancée début avril par 66 parlementaires, dont vous, sur les attentes des Français pour sortir au mieux de la crise engendrée par l'épidémie. Vous êtes avec Mathieu Orphelin, entre autres, sur cette initiative, et vous nous dévoilez ce matin en exclusivité les propositions. 8700 contributions reçues, ce qui est considérable, venu de plus de 26 000 citoyens, mais aussi de syndicats, d'associations, de collectifs, qui font des propositions. Il y a eu 22 ateliers par visioconférence qui ont été organisés. Alors, vous vous engagez à porter ces mesures dans un plan d'action post-crise, c'est-à-dire à déposer des amendements, j'imagine.
Porter des PPL, des propositions de loi, déposer des amendements, porter ça auprès du gouvernement, bien entendu.
Bien entendu. Alors, je prends les listes. On y va. Santé, parce que nous la dévoilons ce matin ensemble. Santé, faire de l'hôpital une priorité nationale. Bon, ça, bon, passons, parce que bon. Reconnaître les soignants, commençant par une revalorisation de 200 euros par mois, ça c'est important.
Ça c'est très important. On ne peut pas avoir des personnes qui ne comptent pas leurs heures, qui sont au contact de la mort au quotidien, qui plafonnent à près de 2000 euros en fin de carrière. Ce n'est pas digne. Donc nous, on propose une revalorisation de 200 euros. Et il ne faut pas oublier que c'est des professions très féminisées aussi. Oui. Donc il y a une question de genre derrière.
Bien, 200 euros, bon. Et l'histoire, j'ai vu d'autres députés qui proposaient de permettre aux salariés de faire un don de congés payés ou RTT sous forme de chèques vacances au personnel soignant. Vous en pensez quoi ?
je pense que c'est pas la bonne voie. Je pense vraiment que c'est une question de revalorisation de salaire, d'égalité, de justice sociale, de revalorisation de ces filières qui ont été en première ligne pendant la crise.
Bien, dans vos propositions, il y en a qui sont un peu des vœux pieux, hein, prévenir plutôt que guérir en incitant les changements alimentaires des Français ainsi que l'activité physique. Bon, garantir
notre...
Non,
mais vous savez, c'est très important.
Oui.
Aujourd'hui, un euro qu'on investit dans de la prévention équivaut à 14 euros en 2025 en curatif.
Il
faut vraiment faire ce changement de paradigme. C'est très
important. Ouvrir 200 000 postes supplémentaires en 3 ans dans les EHPAD. Bon, la sobriété. Encourager le télétravail pour limiter l'empreinte carbone des trajets domicile-lieu de travail. On sait ce qui est fait aujourd'hui. Hein. Mais comment aller plus loin?
On a découvert pendant le confinement que le télétravail pouvait être efficace. Donc, il faut l'élargir, il faut le généraliser là où c'est possible, en faisant attention parce que ça peut rimer aussi à aliénation, parfois à
Les syndicats
isolement.
Sont contre. J'ai vu la CGT qui était absolument contre.
Il faut le faire de façon partielle. Il faut aussi savoir que ça n'implique pas toutes les professions. Donc, il y a un biais social derrière. Il n'y a que certaines personnes, certaines professions qui peuvent faire du télétravail. Mais ça a un impact écologique considérable. Donc, il faut le prendre comme un levier.
Taxer les véhicules individuels les plus lourds et les plus polluants. Taxer les emballages inutiles et non recyclables. Mettre en place un plan zéro plastique et encadrer la publicité dans l'espace public.
La publicité, c'est une question très, très importante parce qu'il faut qu'on change radicalement nos modes de consommation. Aujourd'hui, on est exposé à 2200 messages publicitaires par jour. Donc, il faut encadrer dans l'espace public en enlevant des bâches publicitaires, en sanctuarisant certains espaces, par exemple les écoles, les paysages, les monuments. Il faut vraiment qu'on lutte contre cette surconsommation qui nous est un peu imposée par cette publicité constante.
Alors, aller vers un revenu universel, ça c'est de la solidarité, en commençant par élargir le RSA aux 18-25 ans, créer un fonds zéro expulsion pour éviter les expulsions locatives, créer un impôt sur le patrimoine exceptionnel, revoir l'impôt sur le revenu pour le rendre réellement progressif. Rétablissement de l'ISF ?
Alors là, on parle d'un impôt dans une durée limitée pour financer la crise et la relance.
Oui.
Et donc, on parle d'imposer vraiment le 1% les plus riches. Donc, on pourrait en sortir, lever à peu près 10 milliards d'euros qui pourraient permettre de financer un plan hôpital, qui pourrait permettre de financer la mise en place de ce RSA, pour moins de 25 ans, de ce revenu universel.
Oui, de 18-25.
Voilà. Donc, c'est un impôt ponctuel dont on parle, qu'il faudra lever au plus vite.
Souveraineté, arrêter l'artificialisation des sols, renforcer à hauteur de 10 milliards d'euros en 3 ans l'investissement des collectivités territoriales dans la transition écologique, soutenir massivement le développement de projets alimentaires territoriaux, assurer une participation citoyenne effective en multipliant les expérimentations autour du tirage au sort et les initiatives de budget participatif, mettre en place une véritable éducation aux fausses informations, mettre en place un véritable Green Deal européen et mettre en place un Buy European Act. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'était vraiment une demande des citoyens. Ils ont senti qu'ils sont plus souverains en termes sanitaires, en termes alimentaires, en termes démocratiques. Ça a remonté de partout sur la plateforme de la part des experts. Donc il faudra relocaliser la production de masques, de médicaments, de tests, mais aussi la production de matières premières et de biens de première consommation. Donc vraiment en revalorisant nos territoires, en travaillant sur le circuit court. Donc vraiment, tout ça, il faut qu'on aille de l'avant et c'est vraiment une urgence. C'est un changement de modèle et il faut qu'on le travaille au niveau européen, bien entendu.
Merci Paula Forteza d'être venue nous voir, députée des Français de l'étranger, Amérique du Sud, Caraïbes. Il est 8h21, vous êtes sur RMC, ça vous fait réagir, 3216 rmc.fr. Tiens, je vais prendre Catherine dans un instant, qui est à Bouzigues, dans l'Hérault. Bouzigues, au bord de l'étang de Thau, où l'on mange de très bonnes huîtres. Catherine va nous parler des marchés. Dans un instant, à tout de suite.
RMC, Bourdin Direct. Et invité à 8h35 sur RMC et BFM TV, Anne Hidalgo, qui veut faire rouvrir les parcs et jardins, même à Paris, même en zone rouge. Pour une fois, je suis d'accord avec Anne Hidalgo, nous écrit Domi ce matin. Partout où il y a des parcs, les gens sont agglutinés, devant les grilles, en banlieue, à la Courneuve, c'est pareil. Ce serait préférable que les personnes puissent faire du vélo avec un sens de circulation unique. Pareil pour le jogging. Ouria, et pour aussi, bien sûr qu'il le faut. Il faut étaler au maximum en ouvrant les lieux de respiration. Autrement, tout le monde sera agglutiné dans l'espace public. Et pourquoi ne pas ouvrir ces parcs et jardins en rendant le port du masque obligatoire, dit Catherine. Les gens n'ont plus que les berges à Paris, alors pas étonnant qu'ils s'y retrouvent tous. Alex n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce que les Parisiens en zone rouge auraient le droit à ce passe-droit ? Patrick nous dit la même chose. Toujours à part et mieux que les autres, ces Parisiens. On a déjà ouvert les bois, le Champ de Mars, les voies sur berge, mais jamais assez. Un peu de modestie. Et Marion nous dit les Parisiens sont restés 2 mois enfermés comme tout le monde. Ils peuvent faire encore un effort ce week-end et dans les prochains jours.
RMC, 6h-9h.
Bon, en direct.
Il est 8h25. Je vais prendre Catherine, qui est à Bouzigues, dans l'Hérault. Bouzigues, le pays de l'huître, au bord de l'étang de Thau. Catherine, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va Catherine ce matin ?
Oui, ça va. Non, ça va très bien.
Vous regardez la télé ou vous écoutez la radio le matin ?
Ah non, la télé tous les matins.
La télé tous les matins, RMC Découverte. C'est fou d'ailleurs, hein, le nombre d'auditrices et de téléspectateurs et de téléspectatrices. Catherine, le marché. Alors, ces marchés, aucune réponse pour le non alimentaire, pour les marchés non alimentaires.
Oui, exactement. On a commencé nous déballons sur Sète et sur Béziers. Oui. Donc, on a demandé à la mairie de Sète parce que personne ne nous informe de rien. Donc, en fait, ils ont commencé à réouvrir l'alimentaire. Mais comme on explique, l'alimentaire, il n'y a pas moins de risques plus de risques de vendre des vêtements et des savates que de vendre des fruits et légumes. Peut-être même moins de risques, vu que souvent c'est en sachet et tout ça. Et on peut mettre les mêmes gestes barrières et exactement comme ceux qui vendent des fruits, dont la plupart maintenant, niveau producteur, il y en a beaucoup moins. Il y a aussi beaucoup de revendeurs, dont des commerçants comme nous, finalement. Quand ce sont des producteurs, on le conçoit, c'est tout à fait logique, ils ont une production à vendre. Mais bon, les revendeurs sont dans le même cas que nous, hein.
Mais Catherine, vous posez une excellente question. Ce sont les maires, les préfets et les maires, les maires en relation avec les préfets qui ont les réponses. C'est pas nous, ni même l'État. Enfin, si l'État par les préfets, par l'intermédiaire des préfets. Merci Catherine de soulever cette question. Vraiment merci. Je suis avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Jacques.
Frédéric, qui sont les riches ? Parce que on va. Vous savez, c'est comme notre société. Nous, l'information, on va commencer à la déconfiner peu à peu. Ben oui, parce qu'on était sujet unique, on va déconfiner peu à peu. Alors parlons des riches en France. Cette question ressurgit dans le débat public dès qu'il est question de fiscalité. En ce moment, on parle beaucoup et on va en parler de plus en plus de fiscalité. Une étude de l'INSEE nous répond. On est catalogué riche quand on perçoit au moins 9000 euros de revenus nets par mois. À qui ressemblent ces Français ?
Oui, ben voilà. À partir de quel revenu peut-on se considérer comme riche en France ? Alors, c'est 9000 euros, vous venez de le dire, de revenus nets par mois par personne. C'est le seuil établi par l'INSEE. Alors, ça concerne 1% des ménages en France. Alors, pour être rapide, ils ont plus de 60 ans. Ils vivent plutôt à Paris et la Grande Couronne pour 43% d'entre eux. Normal, c'est en Ile-de-France qu'il y a 30% des cadres. Ils sont en couple sans enfants à charge. Ils tirent la majeure partie, c'est ça qui va être intéressant, de leurs ressources d'activité non salariées. C'est les chefs d'entreprise, c'est les artisans, c'est les commerçants, c'est les professions libérales. Donc, j'ai dit 9000 euros par mois pour une personne seule, 19000 euros par mois pour un couple avec 2 enfants. Et alors, pour faire partie des super riches, c'est-à-dire les 0,1%, les très aisés, là, il faut que les revenus dépassent 268 000 euros par an, c'est-à-dire 22 300 euros par mois pour une personne seule, 46 900 euros pour un couple. Et là, c'est un rendement surtout issu du travail non salarié. Donc, c'est 19% des très, j'ai dit, sont des artisans, des commerçants, etc.
Des professions libérales, des chefs d'entreprise. Ce que nous apprend aussi cette étude, c'est que le travail n'est pas la seule source de richesse.
Oui, sans doute, on parle toujours des rentes, des pensions et tout ça. Ben pour 10% des très riches, donc de ces 0,1%, pour 10% d'entre eux, eh bien c'est leur pension, leur retraite, leur rente qui constitue le revenu principal. Pour 34% de ces très riches, ce sont des loyers, des dividendes, des intérêts qui sont leur revenu principal. Alors, il faut voir aussi qu'ils contribuent à la richesse du pays. Quand nous tous, on reverse globalement 15% de notre revenu à l'impôt, eh bien, c'est c'est très riche, ils reversent 30% de leurs revenus en impôts directs et 35% de leurs revenus pour les très aisés.
Bien, merci beaucoup. Merci Frédéric. Il est 8h29. Anne Hidalgo, notre invitée. Dans un instant, je voudrais remercier encore une fois toutes celles et ceux qui sont là, les équipes techniques, Catherine et Quentin au standard et Quentin Vinet et Mathieu Rouault et Charlemagne, Anaïs Castagna depuis 4h30 le matin. Vous êtes là. Merci de nous accompagner. Anne Hidalgo, mon invitée, dans un instant sur RMC et BFM TV, 8h29.
RMC Bourdin Direct,
Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Anne Hidalgo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio, à distance.
À distance.
Évidemment, à distance, mais je suis content de vous retrouver, de retrouver tous les responsables politiques à studio, parce que l'interview est plus facile.
C'est différent.
Elle est plus directe. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir vous poser des questions. 348 morts ces dernières 24 heures en France. Vous regardez évidemment l'évolution de la situation. Déconfinement depuis deux jours. Premier bilan de ce déconfinement.
D'abord, dans la mise en œuvre, dans les entreprises, par exemple du télétravail, puisqu'on avait beaucoup, beaucoup insisté pour qu'on continue à télétravailler, des mesures barrières dans les entreprises, les administrations, les choses sont appliquées, mais c'est vrai que ça va très vite. Hein. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. On n'est pas à l'abri de nouvelles contaminations. Il faudra absolument, bien sûr, pouvoir enrayer et faire en sorte que tous les clusters puissent être arrêtés très très vite pour ne pas se retrouver dans ce type de situation. Donc évidemment, deux mois de confinement, je pense à Paris, à toutes celles et ceux qui sont dans des petits appartements, tout d'un coup on a l'impression de redécouvrir notre liberté, mais il faut faire très très attention. Moi j'étais pour un déconfinement qui se fasse progressivement, dans les écoles, dans les crèches, on démarre, je dirais, un rythme qui permet d'accueillir les enfants et les personnels adultes, enseignants et nos propres personnels de la ville, dans des conditions sanitaires acceptables.
Mais alors, Anne Hidalgo, prudence, j'ai bien compris, prudence, mais alors est-ce responsable de vouloir rouvrir les parcs et jardins à Paris? Est-ce responsable?
Je pense que c'est d'abord une question de santé publique. On peut prendre le métro et on peut pas marcher dans un parc. Bien sûr, pas n'importe comment. Et là, je suis entièrement d'accord. J'ai fait des propositions hier au gouvernement sur des modalités qui permettent de sécuriser.
Le gouvernement qui nous a dit non.
Ils ont dit non, mais on va discuter. Il y a plusieurs maires qui sont exactement dans la même demande que moi. Vous savez, Paris est une ville très, très dense. On a 20 000 habitants au kilomètre carré. Certains quartiers, quasiment 40 000 habitants au kilomètre carré. Si vous n'ouvrez pas les parcs et jardins, je dis à la promenade, évidemment, pas pour y faire des pique-niques, pas pour... Y compris en n'ouvrant pas les aires de jeu des enfants, pour y faire du sport, pour marcher, pour juste se détendre et respirer. Si on ne le fait pas, les Parisiens, les personnes sont renvoyées à des trottoirs, à des espaces comme les berges, et on a vu, et aussi sur le canal Saint-Martin, et il nous faut vraiment gagner de l'espace. Je pense qu'il faut vraiment, le gouvernement a dit souvent qu'il avait un couple, qui était le couple maire-préfet, et bien voilà, avec le préfet, avec les préfets à Paris, je pense qu'on peut trouver des solutions.
Vous revenez à la charge ce matin.
Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est raisonnable.
Oui, mais alors.
Et c'est pas un problème de dogmatisme.
Est-ce que les espaces où l'on peut pratiquer du sport à Paris municipaux sont ouverts?
Alors, les espaces ne sont pas encore ouverts, les espaces fermés, les stades, par exemple. Donc là aussi, on est en train de se préparer.
Moi, je veux bien qu'on ouvre les parcs et jardins pour aller faire du sport, mais pourquoi ne pas faire du sport sur les stades?
Bien sûr, et ça parce que là aussi, on
ils
est
sont pas ouverts non plus.
Non, mais ça dépend
de la ville. Non,
ça dépend pas du maire. Là, on est dans des protocoles nationaux qui font que un certain nombre d'équipements ouvriront. Ils vont ouvrir, on s'y prépare bien sûr. Mais vous savez que pour pouvoir maintenir justement les distances de sécurité, les distances sanitaires, il faut de la place. Donc, en fait, il faut accueillir moins de monde. Donc, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait dans les écoles, dans les crèches, puisqu'on
a progressivement dans les parcs et jardins, il faudrait filtrer.
Absolument. Est-ce que je me propose
si
de
vous
faire...
Si l'on ouvre les parcs et jardins, On filtre le nombre de personnes qui entrent dans les parcs et jardins.
On peut filtrer, bien sûr, puisqu'on a des gardiens, des personnels. Donc on peut filtrer le nombre de personnes et fermer, en tout cas, dire que la jauge est atteinte s'il y a trop de monde. Deuxièmement, évidemment, proposer le masque obligatoire. Je pense que le masque est vraiment, vraiment une mesure de...
Proposer ou imposer
dans les parcs et jardins nous ouvrons, à travers les règlements des parcs et jardins qui sont municipaux, je pourrais évidemment, comme dans
n'importe quel
équipement, proposer le port du masque.
Oui, bien
sûr.
Vous l'imposerez ?
Oui, bien sûr. Dans les parcs et jardins, clairement, si on les ouvre, et je pense qu'il faut les ouvrir, j'imposerai le port du masque.
Avec une amende ? Avec une amende pour ceux...
D'accord, mais avant de parler de l'amende, vous savez, les gens, si vous les mettez en situation de pouvoir respecter les réglementations...
Tout ce qu'on a vu, le Sacré-Cœur encore, on a vu les quais dans le dixième, est-ce qu'ils sont raisonnables ?
Les Parisiens ont été très raisonnables. Et moi, je veux les défendre et aussi dire ça suffit, le bashing contre les Parisiens. Ils ont été très raisonnables. Les conditions de vie à Paris ne sont pas faciles pour beaucoup de familles. On est très nombreux sur un petit espace. Donc, ils l'ont été. Maintenant, il faut les aider à être raisonnables. Et je pense qu'il ne faut pas infantiliser les gens. Il faut vraiment aussi leur faire confiance, porter ce message-là. Si on a plus d'espace, il y aura moins de concentration de personnes au même endroit.
Donc on ouvre.
Et ça permettra d'avoir un peu d'espace aussi.
Donc on ouvre les parcs et jardins, si j'ai bien compris, à Paris, qui est en zone rouge, mais dans toutes les villes où on est en zone rouge, alors, pas qu'à Paris. Hein.
Si, comme le gouvernement le dit, il y a ce couple maire-préfet qui est le couple de décideurs qui peut prendre les décisions adaptées au terrain et correspondant bien sûr aux doctrines nationales, mais en les adaptant, c'est fort possible de le faire ailleurs. Moi, je ne vais pas me prononcer pour mes collègues, mais je sais que beaucoup de mes collègues sont en discussion d'ailleurs avec les préfets de leur département pour pouvoir justement aller vers ce type de
alors,
mesure.
Beaucoup me disent, bon, très bien, on ouvre les parcs et jardins, mais alors pourquoi ne pas ouvrir les terrasses des cafés ?
Alors ça, c'est, vous avez vu là aussi, ce sont des règles fixées, des protocoles fixés au niveau national. J'espère...
Parce que vous demandez l'ouverture des terrasses, des cafés, des restaurants le plus vite possible.
C'est prévu vraisemblablement si tout va bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de reprise de l'épidémie début juin, ce qu'a dit le gouvernement.
Début juin, les terrasses et cafés, les terrasses des cafés, des restaurants seront ouvertes à Paris. S'il n'y a pas de reprise de l'épidémie.
Si conseil scientifique qui se réunit autour du gouvernement et si le gouvernement le décide, mais je pense que oui, si on peut le faire, et là aussi j'ai fait des propositions, parce que comme toujours, si on veut ouvrir en mettant en sécurité les personnes, les clients et les personnels, il faudra plus d'espace. Donc j'ai proposé là aussi à Paris, que l'on puisse prendre sur l'espace public pour que, par exemple, les restaurateurs, les cafetiers puissent récupérer de l'espace, par exemple sur des places de stationnement que je pourrais mettre à disposition gratuitement, évidemment, parce que le petit commerce a beaucoup souffert. Les commerces comme les cafés-restaurants ont énormément souffert et souffrent encore puisqu'ils ne sont pas ouverts. Et donc, il va falloir les accompagner. Ça fait partie du plan que j'ai proposé et que nous serons amenés à examiner. Oui,
je vais vous parler des mesures économiques dans un instant, mais interdiction de la consommation d'alcool dans certains endroits de Paris, c'est bien. Vous êtes favorable ?
J'ai été favorable parce que effectivement, je pense que on ne va pas non plus se mettre dans une situation. Il faut être encore prudent. Je comprends que beaucoup de gens aient envie de faire la fête, moi aussi, mais il faut encore être prudent. Et sur la consommation d'alcool, je suis tout à fait d'accord avec la décision qu'a prise le préfet de police.
Retour dans les écoles aujourd'hui à Paris. Demain. Bonne chose. Demain, alors, oui.
Oui, on a là aussi discuté.
Demain 14.
Donc, la rentrée se fera donc jeudi. J'avais demandé qu'on prenne un peu de temps pour adapter. J'ai fait beaucoup de visites d'écoles ces derniers jours. Là encore, accueillir...
Vous étiez contre pourtant. Hein.
Non, j'étais pas contre. J'étais pour une ouverture.
Vous aviez signé cette pétition qui demandait, tribune qui demandait des délais.
Des délais, ce que nous avons obtenu d'ailleurs.
Trois jours.
Oui, mais trois jours nous ont permis justement d'être, je pense, à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces jours de préparation avec l'éducation nationale et avec nos propres personnels ? Adapter les locaux. Donc, on va recevoir beaucoup moins d'enfants. Hein. Bien sûr, c'est des groupes beaucoup plus petits pour pouvoir être sécurisés. J'ai aussi proposé que nos personnels, j'espère aussi ceux de l'éducation nationale et les enfants dont les parents le souhaiteraient, puissent se faire tester, dépister.
L'ARS a dit non hein, pour les enfants.
L'ARS n'a pas dit non. L'ARS a été d'accord sur, là aussi, un protocole sur lequel on a discuté. Vous savez qu'à Paris, on a mis en place avec la PHP, avec l'ARS, avec la ville, un dispositif qui s'appelle Covisan, avec des équipes qui vont pour dépister et qui vont justement enrayer un certain nombre de clusters qui pourraient apparaître. Donc j'ai proposé que pour les écoles, on fasse de la même façon, que l'on puisse les intégrer dans le dispositif Covisan, et c'est ce que nous sommes en train de
donc,
préparer.
Donc les enfants, quand les parents le souhaitent, seront testés à Paris.
Absolument.
Bien. Et
avec
tous les
une montée en charge, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr,
cela.
Et tous les personnels.
Et les personnels de la ville, c'est déjà
de
le cas.
La ville.
Tous ceux qui, je leur ai dit, et ils se sont inscrits, tous ceux qui souhaitaient se faire tester, et ils sont très très nombreux, notamment les personnels des écoles et des crèches, à s'être inscrits pour prendre date de ces tests. Et je pense que c'est la bonne façon. Si je peux passer ce message, il ne faut pas tergiverser sur les tests. On nous a dit il y aura 700 000 tests par semaine en France. C'est une très bonne chose. Peut-être qu'il faut que ces tests soient renforcés, notamment dans les zones rouges. Si on veut sortir de la zone rouge, il faut empêcher les clusters. Si on veut empêcher les clusters, si on veut empêcher les contaminations, il faut bien sûr tester les personnes symptomatiques, ça va de soi, mais il faut aussi tester les personnes qui ne sont pas symptomatiques. On sait que beaucoup de contaminations se sont faites à partir de personnes non symptomatiques. Et donc, il faut aller plus loin, regarder l'exemple de ce qui a marché à l'étranger. Je pense à la Corée du Sud qui a tout misé sur les tests.
Donne en exemple la Corée du Sud.
Sur les tests.
Anne Hidalgo, oui, sur les tests. Mais la Corée du Sud a mis en place un strassage qui soulève des protestations dans notre pays.
Absolument.
Vous êtes favorable au traçage?
On n'a pas besoin d'un Big Brother. On a besoin de savoir.
C'est ce qu'a mis en place la Corée du Sud. C'est un Big Brother.
C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui m'intéresse dans l'exemple de la Corée du Sud, c'est le fait qu'ils aient tout misé sur les tests. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus.
Et sur le traçage.
Un traçage, mais comme se fait un traçage dans toute épidémie, sans avoir besoin de revenir à la personne, à l'adresse de la personne, et sans recueillir ces informations et les garder durablement.
Savoir, oui.
Mais ce que l'on fait avec Covisan marche très bien et tout à fait compatible justement avec les libertés individuelles
Un mot sur la responsabilité du maire. Vous êtes maire, responsabilité du maire. Est-ce que le maire doit être déchargé d'une partie de ses responsabilités
Moi, je n'ai jamais été pour les dispositifs d'impunité ou d'immunité. Ouais. Je pense que toute personne, maire, pas maire, élu, quel qu'il soit, doit pouvoir répondre de ses actes. En revanche, ce qui est dit notamment par mes collègues des associations de maires de France, et là j'y souscris, c'est de dire il faut bien sûr répartir les responsabilités. Quand le maire a une responsabilité qui n'est pas directement la sienne, par exemple l'ouverture des écoles, c'est pas le maire qui décide d'ouvrir ou de pas ouvrir, c'est l'éducation nationale. Ça se fait en concertation avec le maire, donc il faut évidemment que chacun ait sa part de responsabilité.
Bien, les transports en commun, déconfinement réussi les deux premiers jours, selon vous ou pas?
Plutôt, le port du masque, même si on me dit ici et là que qu'il y a eu des problèmes, mais le port du masque plutôt très respecté. Les distances de sécurité pas toujours faciles sur certaines lignes de métro. Je pense notamment à la 13, qui est une ligne très très chargée, qu'on a dédoublée d'ailleurs avec une piste cyclable qui permet de suivre le tracé de la ligne 13. Plutôt bien. En même temps, c'est vrai qu'il y a une reprise de l'activité. Lundi, c'était calme, mais là aujourd'hui, où on sent quand même que le flux de voyageurs n'est pas à 100%, mais enfin, on n'est pas très très loin quand même des fréquentations qu'on avait avant confinement.
Anne Hidalgo, vous demandez le port du masque obligatoire
dans la rue,
à Paris, dans l'espace public.
Je pense que c'est une mesure vraiment importante. Nous sommes, je reviens là-dessus, dans une ville très dense. Il y a des petits trottoirs, voilà. Ouais. Hier, j'étais rue de Rivoli. C'est des larges trottoirs, mais beaucoup de monde, beaucoup de monde. Je pense qu'on se protège et on protège les autres avec le port du masque. Et que c'est possible. Aujourd'hui...
Bon, vous distribuez un masque par habitant, par parisien. Bah, alors, j'espère qu'ils sont de meilleure qualité que les masques, ou plus pratiques que les masques qui avaient été distribués aux personnes âgées, hein, parce que c'était pas terrible.
Une petite start-up française, puisqu'on a fait le choix d'acheter français pour une série de masques, d'ailleurs. C'est pas tous les masques qu'on a achetés qui étaient de cette nature-là. Je les ai essayés moi-même, et franchement, ils sont quand même très confortables. Ils sont pas très pratiques à mettre pour une personne âgée, mais ils sont très confortables, et je veux saluer cette petite start-up française qui s'est mise immédiatement dans une production très très massive de ce type de masque. Mais nous sommes effectivement en train de distribuer là aussi, en échelonnant 2 200 000 masques. D'abord, il fallait les fabriquer. Ils sont fabriqués et ils arrivent. On s'est mis d'accord avec les pharmacies, donc c'est aussi en train de se mettre en place pour qu'elles soient distributrices de ces masques gratuits pour les Parisiens. On peut s'inscrire sur le site de la ville, je le dis comme ça, ça sera concret. Oui. Paris.fr, vous vous inscrivez, il y a un protocole, vous prenez date et vous allez chercher votre masque en pharmacie. Et puis si vous n'êtes pas très à l'aise avec les moyens informatiques, il y a le 3975 que vous pouvez appeler qui vous aidera aussi à faire ces démarches.
Bien, deux mots encore, distributeurs de gel hydroalcoolique qui vont être installés, 2000. Et puis dites-moi, est-ce que vous avez installé des poubelles spéciales pour jeter les masques, les gants, je sais pas, les mouchoirs, parce que ça traîne dans les rues de Paris. Paris qui n'est pas très propre toujours. Il suffit de se promener dans Paris.
Il y a beaucoup de fréquentation.
Je sais bien que les Émoueurs ont bien travaillé pendant ce confinement, mais franchement,
ils ont beaucoup de fréquentation,
mais c'est pas très propre.
Il y a beaucoup de fréquentation, il y a beaucoup d'incivilité, et donc vous avez raison, il y a un phénomène scandaleux qu'on voit pointer, qui est que des gens jettent leur masque par terre, jettent des gants, ça n'est pas normal. Écoutez, on est une des villes du monde qui a le plus de corbeilles de rue. On a plus de 30 000 corbeilles de rue dans nos rues. Il suffit de déposer tout cela dans les corbeilles qui existent. Je reviens un instant sur les gels hydroalcooliques quand même.
Oui, 2000.
Je sais que vous en avez parlé
avant. Oui, on en a parlé.
5 semaines entre le moment où j'appelle Jean-Charles Decaux, qui est prestataire à Paris de mobilier urbain, pour lui dire est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui soit des gels hydroalcooliques accrochés par exemple aux abribus ou aux sanisettes. 5 semaines et c'est mis en place. Bien. Donc là, je veux saluer quand même cette rapidité, cette agilité.
2000, et le savoir-faire les abribus, les sanisettes.
Parce qu'on est les premiers à le faire et que je pense que ça va donner des idées à beaucoup d'autres.
Bien, je vais vous poser 3-4 questions. Vous allez dire c'est fait, ça va être fait. Oui. Fonds de soutien pour les TPE, PME, par exemple, ça va être fait.
Ça va être fait. On a déjà pris des mesures d'exonération totale sur 6 mois de charges, par exemple de droits à terrasse, bref, de tous ces impôts ou taxes qui vont aider. Et d'ailleurs, le 18 mai prochain, nous voterons au Conseil de Paris paquet de mesures.
Alors, annulation droit de voirie et de terrasse, exonération des loyers des locaux commerciaux gérés par les bailleurs sociaux de la ville, ouverture le dimanche. Pour certains commerces, vous allez élargir l'ouverture le dimanche.
Vous savez, j'ai donné des autorisations d'ores et déjà à l'ouverture du dimanche, là où c'était utile. Hein, donc voilà, les dimanches du maire à Paris, il y en a 12, et j'ai donné les autorisations. Là où c'est utile, il y a une reprise d'activité à avoir. Il faut faire les choses sérieusement, dans le respect des droits des salariés.
Pour aider les commerçants.
Mais il faut évidemment qu'on puisse repartir.
On pourrait élargir l'ouverture le dimanche.
Écoutez, je pense que franchement, les gens sont pragmatiques. Tous les commerces n'ont pas envie d'ouvrir le dimanche.
Hein, oui, donc, mais ceux qui ont envie d'ouvrir.
Ceux qui ont envie d'ouvrir et ceux qui rentrent dans les professions qui relevaient de mon autorisation ont pu le faire, mais déjà depuis plusieurs années.
Second tour des municipales.
Oui.
En juin, est-ce que vous pensez que ce second tour doit être organisé en juin?
ça sera bien sûr un sujet d'abord sanitaire, mais,
oui.
mais je pense que le cycle électoral, il faut le conclure. C'est une question de démocratie. On ne peut pas rester, j'entends certains dire, peut-être en octobre. Mais on est sûr qu'en octobre, il n'y aura pas une reprise de l'épidémie et que ça ne sera pas renvoyé à ultérieurement. On ne va pas passer notre temps
à retarder... Je vous dis ça parce que chat échaudé
craint l'eau froide. Oui, mais on ne va pas passer notre temps à retarder les processus électoraux là où il y a besoin, justement, que des équipes municipales puissent se mettre en place, légitimées par le vote des citoyens, et qu'elles puissent fonctionner, qu'elles puissent engager les programmes qui vont être des programmes très perturbés par la crise économique et la crise dans laquelle on va être. Donc moi, je plaide, si, écoutez, toute l'économie reprend, si on peut aller dans le métro, c'est le cas, comme on le fait aujourd'hui, avec des mesures de protection, je trouverais étrange que l'on ne puisse pas organiser...
Donc vous dites vous demandez à ce que le second tour soit organisé en juin.
Je pense, en tous les cas, il faut vraiment se
mettre... Vous le demandez.
Bien sûr, et il faut se mettre dans cette situation-là, sauf si la situation sanitaire était telle que ça ferait courir un danger à nos concitoyens.
Un dernier mot, le stationnement.
Oui.
Est-ce que la gratuité va être prolongée ?
Alors, la gratuité pour les Parisiens, la gratuité du stationnement résidentiel jusqu'à début juin. Pour les autres, ben, on reprend la vie normale. Vous savez que le stationnement payant à Paris pour ceux qui ne sont pas parisiens est quelque chose qui permet aussi de réguler l'espace public. L'espace public, il a un coût d'entretien. Et donc, il est payant depuis le 11 mai. Mais je tiens à dire aussi que nous avons ouvert des parkings relais pour permettre à toutes celles et ceux qui habitent nos voisins, qui sont en Île-de-France et qui devaient prendre leur véhicule, pour pouvoir laisser leur véhicule dans des parkings relais aux entrées de Paris. On a plus de 2000 places qui sont ouvertes gratuitement. J'ai demandé à ce que ce soit gratuit pendant au moins jusqu'au mois de juin, voire plus s'il le faut, pour accompagner et proposer cette alternative à ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour venir sur leur lieu de travail.
Merci Anne Hidalgo d'être venue nous voir ce matin. Merci. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.